Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Demain se déroule à Paris le 4e congrès international de cardiologie et d'apnée du sommeil, CardioSleep. Ce congrès a pour but de réunir cardiologues et spécialistes du sommeil de différents pays. L'apnée du sommeil, vous savez, se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration. Ces apnées, qui durent plus de 10 secondes, parfois même 30 secondes, se produisent durant le sommeil, souvent d'ailleurs chez des personnes en surpoids, âgées ou qui ronflent de façon importante. Et ce syndrome d'apnée du sommeil présente des dangers pour la santé, bien sûr. Ça perturbe le sommeil avec une fatigue au réveil, des maux de tête, une somnolence pendant la journée. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'à long terme, ces apnées sont aussi associées à un risque accru de problèmes cardiovasculaires. Alors, quels sont les symptômes de l'apnée du sommeil? Comment le sommeil affecte-t-il notre fonctionnement quotidien, notre santé physique? Quels sont les traitements? C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Ils sont deux autour de cette table. Ils viennent tous les deux d'ailleurs de Bordeaux. Le docteur Marc Sapen, qui est pneumologue à la clinique Bel Air, président de l'association Asthme et Allergie et président d'Alliance et apnée du sommeil. Le docteur Vincent Puel, qui est cardiologue dans cette même clinique Bel Air à Bordeaux, spécialiste en pathologie du sommeil et qui organise ce congrès. Si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Aïe François Akani, qui est chef du service de neurologie au CHU de Boisquet en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, bien sûr, comme tous les jeudis, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano.
RFI.
Docteur Marc Sapen et docteur Vincent Puel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. On avait déjà fait des émissions avec vous, Marc Sapen, et entre autres souvent en duplex de Bordeaux. Vous êtes là maintenant physiquement dans nos studios puisque demain a lieu ce congrès. Docteur Vincent Puel, pourquoi un cardiologue comme vous s'intéresse au sommeil? C'est vrai que c'est pas banal, non? Enfin, en tout cas, c'est nouveau.
C'est nouveau, oui, c'est nouveau. C'est vrai que en médecine, on a rarement le chemin qui est complètement embroussaillé devant vous et il faut y faire sa trace. Et la cardiologie et le sommeil, c'est quelque chose d'assez nouveau en effet. J'ai eu la chance de rencontrer Marc Sapen il y a plusieurs années et de travailler proche de lui physiquement. Donc je me suis intéressé déjà depuis pratiquement 15 ans à cette pathologie, et également parce que un de mes confrères avait publié en 2002 un article sur comme quoi on pouvait éventuellement traiter les apnées du sommeil avec un pacemaker. Je m'intéressais au pacemaker à cette époque, j'en implantais beaucoup.
En tant que cardiologue, bien sûr.
En tant que cardiologue. Ensuite, cette théorie a été invalidée par la suite, mais c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à dépister les apnées du sommeil chez mes patients, et ensuite à les prendre en charge.
Petit à petit, tout simplement, vous avez constaté que dans vos patients qui avaient des problèmes cardiovasculaires, il y avait aussi souvent des problèmes de sommeil, et entre autres d'apnée du sommeil, c'est ça?
Alors, ça faisait partie justement des papiers qui ont été publiés par Stéphane Garrigue à l'époque, c'est que la prévalence de l'apnée du sommeil chez les patients qui ont des maladies cardiaques est très élevée. Ça veut dire que en consultation de cardiologie aujourd'hui, quasiment un patient sur deux dans la salle de consultation d'un cardiologue est porteur de syndrome d'apnée du sommeil. Et la particularité de ces patients, c'est que ce sont en général pas les mêmes que ceux qui se trouvent dans la salle d'attente du pneumologue. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le pneumologue, par exemple, en France métropolitaine, on peut dire que les patients qui sont à haute suspicion d'apnée du sommeil sont bien dépistés et bien traités. Et ceux dont on parle, ce sont des patients qui sont âgés, qui sont obèses, ronfleurs et somnolents.
Et mais ceux-là, en fait, il n'y a pas que, c'est ça le problème.
C'est ça, c'est qu'il n'y a pas que. Ceux-là, en général, ils ont été dirigés vers les spécialistes du sommeil que sont les pneumologues. Ils ont été dépistés, ils sont traités. Et finalement, nous aussi, les cardiologues, nous avons ce type de patients qui cumulent souvent d'autres facteurs de risque, le diabète, l'hypertension. Évidemment, ce sont des patients qui sont à haut risque, mais ils ont déjà été pris en charge. Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que souvent, on a des patients qui n'ont pas de manifestations telles que je viens de les décrire, c'est-à-dire qu'ils peuvent être de petit poids, voire de poids inférieur à la normale, qui n'ont pas forcément de somnolence importante, ou en tout cas qui ne la décrivent pas comme telle, qui sont souvent plus jeunes, et donc on s'adresse à une population qui est beaucoup plus large et qui est totalement méconnue par les médecins généralistes, souvent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore l'habitude de reconnaître ce type de patient.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut maintenant que le cardiologue, quand il reçoit un patient, s'intéresse aussi à ses nuits et pas qu'à son cœur?
En réalité, le cardiologue, il reçoit le patient parce qu'il vient le voir pour un problème cardiologique, que ça soit des douleurs thoraciques, que ça soit un infarctus, que ça soit de la fibrillation atriale, de l'insuffisance cardiaque. Donc, il reçoit le patient avec un motif cardiologique. Et il faut, en effet, et maintenant, c'est quelque chose qui doit être fait, puisque ça a été reconnu par la Société européenne de cardiologie que l'apnée du sommeil est un facteur de risque des maladies cardiaques en tant que tel. En tant que tel, de la même façon que le sont l'hypertension, le diabète, le tabagisme, etc. Donc, en effet, c'est quelque chose auquel il doit penser. Et en prenant en charge ce type de pathologie, il va améliorer la prise en charge de ses patients sur les différentes pathologies dont on vient de parler, que je viens de citer. Il va améliorer le résultat des prises en charge des traitements habituels. L'hypertension par les médicaments, la fibrillation atriale avec tous les traitements que l'on connaît aujourd'hui qui sont très onéreux pour la société, pour le patient, pour la famille, comme par exemple l'ablation de la fibrillation. Ce sont des interventions qui sont longues et coûteuses. Et si on ne prend pas en charge cet élément qui est l'apnée du sommeil, eh bien on sait qu'on va perdre un grand nombre de chances sur les résultats de ce traitement. Donc en effet, c'est quelque chose qu'il faut auquel il faut penser. Et je dirais que au-delà de ça, au-delà d'améliorer le résultat des traitements, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup impressionné dans cette thérapeutique, c'est qu'on modifie la qualité de vie des patients. Et ça, on le sait déjà depuis longtemps avec les pneumologues, bien évidemment. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que ces patients-là, ils ont des manifestations qui sont un peu cachées, parce que souvent ils sont plus jeunes, sont des hommes actifs, des hommes ou des femmes, mais ce sont souvent des gens qui sont en pleine activité. Et donc, ils masquent un petit peu leurs symptômes involontairement. Mais quand on les traite, on change drastiquement leur qualité de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant, puisqu'on a rarement des traitements en médecine qui améliorent autant la qualité de vie des gens que cette prise en charge.
Et on va y revenir justement sur cette prise en charge de l'apnée du sommeil. On parlera tout à l'heure de CardioSleep, de ce congrès, de qu'est-ce qui va s'y passer. Docteur Marc Sapin, je voudrais qu'on revienne sur la question de l'apnée du sommeil. J'ai essayé de la définir au début. J'imagine que vous avez quand même des éléments d'information complémentaires à donner. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a apnée du sommeil et d'ailleurs, comment on le diagnostique?
Alors la première des choses, c'est que l'apnée du sommeil, si j'étais dans la grande consommation, je dirais que c'est un produit d'appel. L'apnée, c'est visible, un arrêt respiratoire, et avec des conséquences, une reprise ventilatoire bruyante, etc.
Et c'est souvent le conjoint qui s'en aperçoit.
Alors, c'est souvent le conjoint qui devrait s'en apercevoir. Mais la vie est ainsi faite que, par exemple, les hommes dorment facilement et s'occupent pas trop de leur conjoint quand ils dorment. C'est-à-dire, les hommes, quand je leur pose la question, ils me disent « Est-ce que votre femme ronfle ?» Bouf, pas tant que ça. Oui, c'est surtout eux qui dorment bien. Donc, l'interrogatoire, pour dire les choses simplement, est très peu fiable.
D'accord.
Bon, il est vrai quand l'information est là. Alors, ce que je voulais dire, c'est que...
Et alors, du coup, on diagnostique comment ?
Alors, d'abord, je crois qu'il faut d'abord... Quand est-ce qu'il faut y penser ? C'est très simple. Et maintenant, il faut y penser tout le temps en médecine. Tout le temps. Que ce soit des adultes, des enfants, des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, il n'y a plus de profil concernant l'apnée du sommeil parce que les causes sont multifactorielles. Pour des 10 000 raisons, on peut faire de l'apnée du sommeil. Alors, j'ai pas encore répondu à votre question, mais qu'est-ce que c'est que l'apnée du sommeil ? Ça survient, comme le mot l'indique, uniquement pendant le sommeil. Ça n'existe pas dans la journée. Souvent, les patients me disent « Oui, mais j'arrête de respirer quand je regarde la télévision. » On s'en fiche. C'est uniquement pendant le sommeil. Et c'est tout événement respiratoire, toute modification de la respiration, pas forcément un arrêt de la respiratoire. Et Vincent Puel en parlera encore mieux, parce que c'est très fréquent en cardiologie, c'est simplement une limitation du débit respiratoire. Une respiration qui vient perturber le bon fonctionnement de l'organisme et qui se termine toujours par un micro-éveil cérébral. Et la cause de la maladie, elle est là.
Et alors, quand même, comment on pose le diagnostic ? Parce que le problème, c'est que vous dites, les hommes, ils dorment très bien, donc ils ne se rendent pas compte si leurs femmes font de l'apnée du sommeil ou pas. Du coup, vous vous en apercevez comment ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, peut-être qu'il y a des questions que vous posez à vos patients avant de faire toute une batterie d'examens, j'imagine.
Alors, les questions sont d'une grande simplicité. Est-ce que vous êtes en forme le matin au réveil ? La question de la fatigue de matin au réveil doit immédiatement mettre la puce à l'oreille. On doit se réveiller en forme. On est fatigué le soir, c'est normal. Mais le matin, on ne doit pas être fatigué. Deuxièmement, est-ce qu'il se passe des choses pendant la nuit? Est-ce que le sommeil est agité? Est-ce qu'on ronfle? Est-ce qu'il y a des événements de ce type-là? Donc ça, c'est des questions d'une très grande simplicité. Donc, ça, c'est assez simple. Parce que on a des états de fatigue, voire de somnolence dans la journée. Maintenant, la deuxième chose que doit avoir tout médecin, c'est devant une pathologie, et ça sera le cas en cardiologie, souvent ils se plaignent pas de troubles du sommeil, les malades cardiaques. C'est, j'ai de l'hypertension, j'ai fait un infarctus, j'ai fait une attaque vasculaire cérébrale, et là on recherche. Et l'interrogatoire n'étant pas toujours discriminant, il faut avoir des examens de diagnostic, et je réponds enfin à votre question, des examens diagnostiques, le plus référencé actuellement c'est la polysomnographie, c'est-à-dire on met des capteurs toute la nuit sur la respiration, sur le cœur, pour savoir s'il y a des modifications.
Et ça, ça se fait à l'hôpital ?
Alors ça se fait à l'hôpital, mais heureusement la technologie se développe beaucoup, il y a maintenant des techniques simples en mode ambulatoire, dans
c'est-à-dire
tous les pays,
soi,
y compris dans des pays à faible niveau de revenus,
ouais.
On peut faire des diagnostics simplifiés avec des appareils simplifiés.
Et donc, on devrait beaucoup plus généraliser cet examen ?
Absolument. C'est quelque chose... Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi on n'en parle pas beaucoup ? Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et quand il n'y a pas de médicaments, la pensée médicale mondiale étant très influencée par l'industrie du médicament, fait qu'on parle peu de cette maladie. Mais elle devrait avoir une place qu'elle n'a pas aujourd'hui.
Il y a une petite machine dont on parlera justement sur les traitements.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on parle des liens entre apnée du sommeil et maladies cardiovasculaires. D'après ce que vient de nous expliquer le docteur Marc Sapène sur la fréquence de ces problèmes d'apnée du sommeil, docteur Vincent Puel, est-ce que ça veut dire que l'examen dont on vient de parler, vous le proposez de façon systématique à vos patients en cardiologie ?
Alors systématique, non, on n'est jamais systématique, mais c'est quelque chose, comme disait Marc Sapène, qu'il faut évoquer. Chez tous nos patients et auxquels il faut penser. Et ensuite, on a différents éléments d'aide tels que des échelles d'évaluation, des choses comme ça qui peuvent nous orienter. Mais c'est vrai
Mais par exemple, sur vos patients, l'examen dont vient de parler Marc Sapène, quel est le pourcentage à qui vous faites passer cet examen-là pour qu'on ait une idée de la fréquence ? C'est quoi ? C'est la moitié des patients ?
Eh bien, oui, on peut dire que c'est la moitié des patients. Disons que tout dépend l'intérêt que le cardiologue porte à cette pathologie. Donc, c'est vrai que je me suis beaucoup engagé dans cette pathologie. Donc, je suis pas représentatif de la cardiologie cardiologie aujourd'hui, mais je pense qu'en effet un cardiologue, disons, avec ce que l'on met en œuvre aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Donc je peux pas vous donner un chiffre, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui évolue.
Non, mais je me pensais juste à vous étant alerté là-dessus, c'est quoi ? C'est la moitié de vos patients ? C'est ça ?
Oui, on peut dire quelque chose comme ça. Je disais que c'est 50% des patients en cardiologie qui sont affectés de cette...
Et je voudrais qu'on parle de ce congrès CardioSleep. L'objectif, justement, c'est de faire travailler ensemble des cardiologues et des pneumologues qui travaillent pas forcément ensemble. C'est ça ?
C'est pas exactement ça. L'objectif, au départ, c'est de sensibiliser les cardiologues à cette pathologie parce qu'ils ne l'étaient pas. J'ai créé ce congrès il y a 4 ans. C'était au début une réunion entre proches qu'on a fait à Bordeaux avec l'aide de Marc Sapène, bien évidemment, puisque en tant qu'expert, il m'a beaucoup aidé à préparer cette réunion. Et puis, il y a eu quand même un engouement national et aujourd'hui international, puisque c'est la première année que l'on réunit des experts internationaux pour parler des pathologies cardiovasculaires et de l'apnée du sommeil. Et donc cette année, on fait un focus sur l'insuffisance cardiaque puisque c'est une pathologie qui a des particularités sur l'apnée du sommeil. Ce n'est pas uniquement des étouffements liés au ronflement, mais ce sont également des arrêts de respiration qui sont liés à l'insuffisance cardiaque. Donc ce sont
deux mélangés.
Ce sont deux pathologies qui se mélangent, qu'on appelle tous les deux apnées, mais finalement on pourrait dire en quelque sorte qu'elles ont peu de choses à voir l'une avec l'autre. L'une est liée à un étouffement par affaissement de la glotte, et l'autre est liée à une réduction de la respiration du fait du drive neurologique. Donc on est dans des pathologies qui affectent tous les deux la maladie cardiaque. Donc toutes les deux apnées centrales et obstructives, affectent la maladie cardiaque et sont traitées par la même prise en charge. Ce ne sont pas des médicaments, sauf l'insuffisance cardiaque qui doit être traitée à part, mais l'apnée de l'insuffisance cardiaque relève d'un traitement par une petite machine également dont on va parler.
On va y revenir. On a Brahima qui nous appelle de Trappe en région parisienne. Brahima, bonjour.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Alors, je voulais d'abord je vous remercie de m'avoir appris à l'antenne. Ma question est celle-ci. J'ai été prévenu par moment par mes amis comme quoi je faisais de l'apnée du sommeil. Et actuellement aussi, je suis sous médicaments concernant la tension artérielle. Alors, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir si l'apnée du sommeil est un facteur aggravant
de l'hypertension d'ailleurs ou dans l'autre sens. Et est-ce que vous avez déjà consulté pour ces apnées du sommeil?
Oui.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit?
J'ai pas pu honorer au rendez-vous parce que au niveau du boulot, sinon j'avais plus.
Ah ben non, donc vous n'avez pas consulté. Je pense que le conseil, ça va être de consulter. Alors d'abord, peut-être pour répondre à Brahima, docteur Vincent Puel, quand il y a de l'hypertension, ça aggrave le problème.
Alors, c'est une question importante parce qu'on peut pas rechercher l'apnée du sommeil chez tous les patients qui souffrent d'hypertension artérielle. C'est une maladie qui est extrêmement répandue et c'est le coût de la recherche et du traitement de l'apnée du sommeil serait tellement important que ça n'a pas lieu d'être. Par contre, en effet, les maladies sont liées. Si on prend les patients hypertendus, il y en a beaucoup qui ont de l'apnée du sommeil. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et je crois que le cardiologue aujourd'hui, le message est clair. Les patients hypertendus standards, qui sont correctement traités avec un ou deux médicaments, n'ont pas besoin de faire de recherche d'apnée du sommeil. Sauf s'ils ont des symptômes. Sauf s'ils sont hypersomnolents, très fatigués, s'ils se lèvent avec des maux de tête, si en effet des apnées ont été constatées la nuit. Donc là, ça peut être un motif de recherche, mais je dirais que finalement c'est plus des patients qui font de l'apnée, qui ont des symptômes de l'apnée, que de l'hypertension. Mais j'ai pas fini. On a des hypertensions qui sont très sévères et pour lesquelles il faut beaucoup de médicaments et qu'on n'arrive pas à équilibrer. Les cardiologues ont du mal à équilibrer ces hypertensions. Il faut quelquefois 4-5 médicaments. Et dans ces cas, il faut rechercher l'apnée du sommeil. Alors même que le patient peut avoir assez peu de symptômes. Et là, le traitement de l'apnée du sommeil
va faire baisser la tension et va faire baisser la tension. En fait,
absolument.
C'est ça. Et alors, Marc Sapène, venons-en à ce traitement de l'apnée du sommeil. Comment ça se passe? C'est une petite machine qui vous aide à arrêter de respirer, justement?
Alors, le traitement est basiquement simple. Inventé par un génie absolu qui s'appelle Monsieur Sullivan, qui était un Australien. Et il avait la chance de faire de la plongée sous-marine, donc de savoir se mettre un masque sur le nez. Et il avait pensé que ces patients qui ont des anomalies de la respiration pourraient être traités en impulsant de l'air dans le fond de la gorge, finalement. Donc le traitement n'a pas beaucoup changé. Les masques sont plus confortables, les machines
donc sont... Donc c'est un masque avec
une
petite machine.
C'est un masque qu'on met la nuit avec une petite machine qui met de l'air sous pression. C'est pas de l'oxygène. Souvent, les malades disent « Oui, mais je dois avoir de l'oxygène. » Non, non, c'est pas de l'oxygène. Ils n'ont pas besoin d'oxygène. Ils ont simplement besoin qu'on ouvre la gorge.
Et de l'air sous pression, ça veut dire quoi?
Alors, de l'air sous pression, ça veut dire que c'est une machine qui pulse l'air qui est pris dans la pièce et qui va permettre d'ouvrir les voies aériennes supérieures. Toute la maladie, c'est la réduction de l'ouverture des voies aériennes.
C'est ça, éviter qu'on s'arrête de respirer.
C'est pour ça que les traitements dits alternatifs actuellement sont des traitements qui permettent, par exemple, d'avancer la mâchoire pour ouvrir l'arrière.
On y revient juste après les infos, si vous voulez bien. On se retrouve dans 3 minutes, toujours pour parler des liens entre apnée du sommeil et maladies cardiovasculaires.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact des apnées du sommeil sur les problèmes cardiaques à l'occasion d'un congrès qui va se dérouler demain, un congrès international justement de cardiologie et d'apnée du sommeil qui va se dérouler à Paris. Mes invités, le docteur Marc Sapen, qui est pneumologue à la clinique Bel Air, président de l'association Asthme et Allergie et président d'Alliance et Apnée du Sommeil, et le docteur Vincent Puel, qui est cardiologue également dans cette clinique Bel Air et organisateur de ce congrès. Je vous rappelle le téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Juste avant les informations, on est en ligne avec Brahima de Trapp qui nous dit qu'il ronfle beaucoup, qu'a priori il fait de l'apnée, en tout cas c'est ce que lui ont dit ses amis, de l'hypertension. Et donc vous étiez en train de nous parler du traitement, docteur Marc Sapen. Donc c'est une petite machine qui permet, à pression d'air, ce que j'ai compris, qui permet de mieux respirer. Alors j'ai beaucoup apparemment d'idées fausses sur cette question-là. On dit beaucoup que la machine, elle est pas, c'est pas très agréable, que les gens du coup la portent pas, et apparemment c'est pas vrai, c'est ça?
Ça peut être parfois vrai, mais le constat, la réalité de la situation, c'est que c'est un des traitements les mieux suivis de la médecine. Beaucoup plus que lorsqu'on prend des médicaments pour le cœur ou pour la respiration.
Donc les gens achètent la machine et donc s'en servent toutes les nuits.
Alors, non, les gens, c'est la particularité du système français qu'il faut que nous défendions tous. C'est d'avoir ce qu'on appelle des prestataires de soins à domicile. Ça permet de traiter les patients en dehors de l'hôpital. C'est un intermédiaire entre la médecine de ville et l'hospitalisation. Et ce système est excellentissime. Et on le voit très bien dans un congrès international comme celui de Vincent Puel de demain. La grande différence de suivi de ces traitements entre la Nord-Amérique,
les Américains,
les patients achètent leur traitement et s'en débrouillent, alors qu'ici c'est un traitement que le patient n'achète pas, qui est pratiquement pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles, qui ne coûte rien aux patients, à condition qu'ils suivent bien leur traitement. C'est un élément important et je pense que ça représente ce que sera la médecine de demain.
Alors, donc justement, parce que en fait, c'est un peu compliqué de s'en servir au début, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un accompagnement.
Voilà, il faut bien expliquer l'utilisation, parce que le premier réflexe, c'est celui dont vous parliez. Dormir avec un masque sur le nez, avec une petite machine sur la table de nuit, c'est moyennement sexy en première apparence. Or, donc il faut qu'il y ait un temps d'explication, ce qui devrait se faire d'ailleurs dans l'ensemble des maladies. Comment se traiter sans comprendre ce qu'on a? C'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, qui heureusement est bien développée maintenant grâce à ces sociétés prestataires pour l'apnée du sommeil.
Donc les patients ne se plaignent pas de la machine, les conjoints, est-ce que ça fait du bruit la machine?
Alors les conjoints sont peuvent être assez réticents, mais en général, s'aperçoivent très vite, parce que l'amélioration est
que le
assez
conjoint dort mieux, qu'il est moins ronchon, par exemple.
Voilà. Donc moi, je vais vous dire ce que je devrais pas dire à la radio. Quand je vois un conjoint qui s'en plaint, je me demande si la problématique n'est pas la machine.
Mais autre chose. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas, Brahima. Et le conseil qu'on peut donner à Brahima, c'est évidemment d'aller consulter là. Et là, il va consulter quoi? Qui? Un pneumologue? Un cardiologue?
Alors,
du coup,
c'est souvent les pneumologues qui font le diagnostic. Il y a quelques cardiologues comme Vincent Puel maintenant qui font le diagnostic en première intention. À Paris, de toute façon, il y a l'hôpital Saint-Antoine, puisque je vois qu'il habite Paris, où il y a un excellent centre. Vincent pourra vous donner des coordonnées de services de cardiologie ou de cardiologue qui à Paris s'en occupe. On pourra le faire au rentrée.
On a un autre auditeur justement qui nous appelle de Paris, c'est René. Bonjour René.
Bonjour.
En l'occurrence, c'est une auditrice d'ailleurs. Bonjour voilà. René, on vous écoute.
Alors voilà, mon fils il a 27 ans aujourd'hui, mais depuis qu'il était tout petit, il ronflait. Et à l'âge de 18 ans, on a constaté qu'on lui a fait des tests, on a vu qu'il avait l'apnée du sommeil. On l'a appareillé, il a porté l'appareil quelques temps et puis bon, finalement il a laissé tomber. Alors, je tiens à préciser qu'il est très grand, il est très, très, très mince, donc c'est pas un obèse. Et par ailleurs, ça c'est la deuxième question. Alors, je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir maintenant qu'il n'utilise pas son appareil, premièrement. Et deuxièmement, aujourd'hui, il a une petite fille qui a un an et qui ronfle elle aussi. Et j'aimerais savoir pour elle si il faut déjà s'inquiéter et faire des examens spécifiques.
Alors c'est très intéressant vos questions René. D'abord effectivement sur votre fils qui est jeune et qui fait des apnées du sommeil, l'image qu'on a à Marc Sapen, ce sont des vieux en surpoids, c'est pas toujours le cas.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a plus d'image, il faut enlever toutes les images. Là, l'élément important c'est jeune et ronflé, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. Je dirais les choses de façon encore plus simple et un conseil d'une grande
simplicité.
Donc
un jeune qui ronfle doit consulter.
Un jeune qui ronfle doit consulter. Un enfant d'un an, de deux ans, de trois ans qui ronfle, c'est catastrophique. Faut dire les mots comme ils sont. Personne ne s'occupe de ces patients actuellement. C'est eux qui feront plus tard des maladies cardiaques. Il faut se placer maintenant au niveau de la prévention. On évitera justement cette petite machine.
C'est donc quoi pour le la message petite fille d'un an, message, il faut consulter.
Le message de santé publique, c'est regardez vos enfants dormir. Ce que personne ne fait. On est tellement tranquille quand ils dorment, on ferme vite la porte. Regardez tous vos enfants dormir. Un enfant doit dormir en respirant avec le nez. Toute respiration buccale, on ne doit pas respirer par la bouche, est hautement suspecte.
Et qu'est-ce qu'on fait avec un enfant ? On lui met la même machine ?
Alors, chez l'enfant, la problématique est différente. C'est en général des actes de chirurgie, en particulier d'enlever les amygdales. Ça peut être quelquefois une machine transitoire, mais c'est très rare. Par contre, il faut s'en occuper, parce que les conséquences sont majeures.
Et les conséquences sont cardiaques, justement. C'est ça, Vincent Puel ?
Les conséquences sont cardiaques, mais pas immédiatement.
C'est
chez
ça,
l'enfant,
à long terme.
Les conséquences sont bien autres, et notamment elles sont
la concentration,
mentales,
la fatigue
et cognitives. C'est souvent des enfants qui vont pas progresser à l'école, qui vont avoir du retard, qui vont être parfois très agités. Alors je voudrais ajouter que finalement c'est pas mon rôle de cardiologue de parler de ça, puisque je voudrais parler de mes patients, mais j'ai été tellement impressionné par j'ai des adultes jeunes qui ont donc des enfants. Et j'ai été tellement impressionné par, en effet, des enfants décrits comme ronfleurs que quand j'ai créé le centre avec Marc Sapen, j'ai dit à Marc, il nous faut un pédiatre formé sur l'enfant parce que, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en charge, même en pédiatrie. Donc, il fallait qu'on sensibilise et on a recruté une fille formidable dans notre centre, une jeune chef de clinique qui vient de sortir et qui prend en charge ce type de patients maintenant.
Et donc,
alors, je voulais finir avec René, parce que René signalait deux choses. D'une part, que finalement sa petite fille ronflait et que son fils était mince, avait 18 ans et avait commencé
28,
des ronflements.
28, 26, 27, enfin dans ces eaux-là. Mais toujours est-il que, surtout il a arrêté d'utiliser sa machine et elle s'inquiète un peu pour lui. Quels sont
donc,
les risques?
Il y a deux éléments très importants dans cette histoire. C'est d'une part que la maladie est héréditaire. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas que les gens qui sont en surcharge de poids et elle dit bien que son fils est en petit poids,
et
maigre, grand et mince. Donc ça veut dire que c'est plus un problème de graisse autour du tuyau respiratoire, mais c'est un problème de morphologie du visage. Et la morphologie du visage, c'est souvent, en effet, ça commence dans l'enfance, dû à des obstructions nasales, souvent, parce que les enfants ont des allergies, ils respirent par la bouche, et donc ils développent, en effet, une forme de visage particulière. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la bouche ouverte, et ils vont développer leur visage de façon à ce qu'ensuite, on ne pourra plus traiter ces enfants à l'âge adulte, une fois que le massif facial sera fixé.
Vous le voyez à la tête des enfants ?
Oui, absolument. On sait, de même qu'on voit, on peut reconnaître un ronfleur dans la rue, parce qu'il a une rétrognathie, c'est-à-dire qu'il va avoir la mandibule, la mâchoire du bas, un peu en arrière. Et on sait que ces gens-là ronflent, parce que la langue est postérieure. Et donc, chez l'enfant, on reconnaît également des formes de visage. Une fois qu'on en a pris l'habitude, c'est très facile. C'est très facile, et le traitement est curatif, jusqu'à ce que le visage soit correct, enfin soit formé de façon définitive, c'est-à-dire jusque vers l'âge de 14 ans. Jusque vers l'âge de 14 ans, on a des traitements qui peuvent empêcher l'évolution de cette maladie à l'âge adulte et donc
et
en effet
quoi,
les complications cardiovasculaires.
Alors, le
eh bien comme le disait Marc Sapen, ce sont des traitements qui sont souvent chirurgicaux. Mais enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que on sort de mon rôle et mon rôle c'est dépister chez les patients cardiologiques la pathologie mais également de dire attendez, vos enfants ronflent, ne laissez pas les choses comme ça, c'est un problème de santé
donc,
publique.
Le conseil pour René,
donc,
c'est ça.
Ensuite,
et quand même, son fils qui a arrêté d'utiliser la machine, le risque, c'est quoi?
Alors bon, il faut réévaluer son fils. Je pense que s'il a arrêté d'utiliser la machine, c'est peut-être qu'il n'en trouvait plus d'intérêt suffisant. Et comme le disait encore une fois Marc Sapen tout à l'heure, le traitement des apnées du sommeil, c'est quelque chose qui change la vie des gens. Et c'est, s'ils portent leur traitement, c'est pas par plaisir, c'est parce que quand ils ne le portent pas, ils s'aperçoivent à quel point leur qualité de vie est médiocre dans la journée. Donc, il faut utiliser le traitement. Et s'il l'utilise, alors peut-être qu'il avait été surdiagnostiqué ou peut-être que les choses ont changé. Je peux pas, il faudrait voir précisément.
En tout cas, ça vaut le coup d'aller
reconsulter.
Merci René, en tout cas, pour ces questions essentielles. On a au téléphone le professeur Aïe François Akani, qui est chef du service de neurologie au CHU de Boisquet en Côte d'Ivoire. Professeur Aïe François Akani, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes confronté à beaucoup, justement, de cas d'apnée du sommeil?
Ah oui, bien sûr, oui. Il y a beaucoup de cas d'apnée du sommeil ici en Côte d'Ivoire. Déjà, il faut voir le physique des patients. En zone sud de la Côte d'Ivoire, vous avez des personnes obèses. Et en plus, là, il y a l'hypertension.
Et les patients, donc, ça veut dire que c'est une notion que les gens connaissent, une maladie que les gens connaissent, et les patients consultent pour ça?
Et non, et en fait, ils ne consultent pas pour ça. Ils viennent pour des troubles, pour le ronflement, en fait, voilà. Et c'est le médecin, l'équipe médicale qui détermine, qui fait le diagnostic par rapport à l'état physique, par rapport à l'hypertension et puis aux autres signes de la maladie.
Oui, et dans l'émission d'aujourd'hui, on est en train de voir les liens entre l'apnée du sommeil et ces maladies cardiovasculaires. Est-ce que justement, vous, en Côte d'Ivoire, les cardiologues sont alertés sur cette question? Il y a un travail qui est fait là-dessus ou pas encore?
Ah, bien entendu, oui, les cardiologues, étant donné que ce tableau clinique présente une hypertension, donc il y a une grande institut de cardiologie en Côte d'Ivoire, un des plus grands de la sous-région avec beaucoup de cardiologues locaux et de la sous-région qui viennent se former. Donc tous ces patients hypertendus, la majorité des patients hypertendus sont reçus dans cet institut et bien sûr aussi dans les d'autres structures hospitalières où il y a des cardiologues au niveau privé comme au niveau hospitalier.
Et la machine qui permet de remédier à ces apnées du sommeil, elle est disponible relativement facilement en Côte d'Ivoire et est-ce que les...
Non,
c'est ça le problème.
Pas du tout. La plupart des patients qui ont ces machines, ils ont acheté en Europe. Hein. Ouais. Ils viennent avec des machines. C'est-à-dire que ce sont des patients qu'on oriente vers l'Europe pour une prise en charge beaucoup plus.
Elle n'est pas vendue. Elle n'est pas vendue en Côte d'Ivoire, cette machine.
Non, elle n'est pas vendue. Non, d'accord. La machine n'est pas vendue. Les malades viennent avec la machine. Et ici, il y a les suivis. Ils repartent régulièrement en France pour les contrôles, pour les suivis. Oui.
D'accord. Et une fois qu'ils ont la machine, ils l'utilisent?
Ah, ils l'utilisent. Oui, bien sûr. Mmh. Selon les recommandations du médecin, selon la prescription du médecin. Ouais, ils utilisent la machine, ah, oui. Et avec une amélioration de l'état.
Ben, merci, hein, professeur Akani. Marc Sapen, quand même, elle coûte combien, cette machine? C'est une machine qui est chère. Évidemment, j'ai bien compris, c'est remboursé par la Sécu et le patient paye pas, c'est pris en charge. Mais elle coûte combien, cette machine? Elle est chère?
Alors, c'est comme les téléphones, les prix diminuent beaucoup. Elles sont de plus en plus fabriquées.
De plus en plus petites.
De plus en plus petites et elles diminuent beaucoup. Vous donnez des ordres de prix, un aspect qu'on n'a pas abordé, retenez bien ce qu'a dit Vincent Poel tout à l'heure. Là, on parle de cardiologie et d'apnée du sommeil. Il faut bien voir que c'est deux choses, il y a deux aspects très différents. Il y a les maladies de l'apnée du sommeil qui entraînent des maladies cardiaques, donc qu'on va traiter par ventilation en pression positive, et là, les machines sont désormais relativement peu chères. Et ça dépend du circuit où c'est vendu. Et deuxièmement, il y a les maladies qui sont d'apnée du sommeil, mais qui sont la conséquence de l'insuffisance cardiaque. C'est plus la cause, c'est la conséquence. Et là, c'est des machines très compliquées, qui coûtent extrêmement cher, enfin plusieurs milliers d'euros.
Ah oui, d'accord.
Et là, il n'y a pas d'autre choix que la machine. Tandis que, je reviens maintenant à l'apnée du sommeil banale, qui donnera des maladies cardiaques plus tard, la machine est une référence, mais dans des pays comme l'Afrique actuellement, on peut aussi traiter avec des orthèses d'avancée mandibulaire. Là, les coûts ont beaucoup diminué, on peut presque se la fabriquer soi-même. C'est moins efficace, mais c'est beaucoup mieux que rien. C'est un petit appareil dentaire qui permet d'avancer la mâchoire inférieure.
Donc, et du coup, qu'est-ce que principe. Ça fait, ça? Ça évite ces apnées.
Et ça diminue de beaucoup les apnées.
Alors, quelles sont justement les autres techniques? Vous avez parlé de ces prothèses, vous avez parlé de la machine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique? Est-ce qu'il y a des techniques maintenant chirurgicales qui permettraient de plus utiliser la machine?
Si on résume les choses, c'est l'enfant, le plus souvent, c'est de la chirurgie assez simple, qui doit être bien faite, qui malheureusement n'est plus faite, comme enlever des amygdales. Ça suffit pas toujours, mais c'est souvent le cas. Ensuite, il y a les apnées avec dysmorphie faciale. On a eu une face qui a été déformée pour une chose aussi banale que d'avoir le nez bouché avec une rhinite allergique. Hein. Donc il faut absolument s'occuper de cela très tôt. Et là, le traitement de référence, c'est la ventilation en pression positive, la petite machine. Sinon, c'est d'avancer la mâchoire avec l'orthèse. Et si l'orthèse marche bien, on peut faire de la chirurgie. C'est de la chirurgie lourde, mais qui peut être extrêmement intéressante et efficace, mais qui se fait que dans des centres très spécialisés.
On arrive vraiment à la fin de cette émission, parce qu'on va retrouver retrouver la chronique du docteur Catherine Solano. Vincent Puel, dites-nous quelques mots de ce congrès qui se déroule demain. Qu'est-ce qui va se passer?
Le congrès qui se passe demain est quelque chose d'absolument formidable, je pense, pour la cardiologie. C'est de réunir les plus grands experts mondiaux qui sont cardiologues pour certains, pneumologues pour d'autres, et qui vont rassembler leurs connaissances autour de ces pathologies cardiovasculaires et d'apnée du sommeil. Donc,
C'est un lieu
de formation. Ce sont essentiellement des cardiologues qui seront présents. On a comme invité d'honneur le professeur Douglas Bradley de l'Université de Toronto au Canada. On a, je ne vais pas vous citer tous les noms, mais qui viennent du monde entier pour parler de ces pathologies.
Et c'est de montrer les études qui mettent en évidence les liens entre les deux, justement.
Voilà, cette année, on a focalisé sur l'insuffisance cardiaque, parce que, comme le disait Marc Sapin, c'est une pathologie qui est importante, mais qui concerne quand même petit pourcentage des apnées du sommeil. Mais c'est quelque chose qui est en pleine progression parce qu'en effet, il y a ce nouveau traitement avec cette nouvelle machine qui coûte en effet cher, mais qui peut modifier le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque en France métropolitaine, c'est 1 million de patients. Donc c'est quand même important de s'en occuper.
Très important. Juste un mot de conclusion, docteur Marc Sapin, le conseil que vous avez envie de donner, c'est n'hésitez pas à consulter, c'est ça?
Oui, c'est quel que soit votre problème de santé, demandez-vous s'il n'y a pas derrière quelque chose qui se passe pendant le sommeil, en particulier des troubles respiratoires.
Et j'imagine qu'il faut aussi former les médecins maintenant là-dessus.
Et pour les mamans, regardez si vos enfants respirent par le nez.
Et former les médecins, non?
Parce que les médecins. C'est ce qu'on s'acharne à faire avec Vincent.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Marc Sapin et docteur Vincent Puel. Je rappelle donc que demain se déroule un congrès sur les liens entre apnée du sommeil et maladies cardiovasculaires. Et on retrouve tout de suite le docteur Solano. Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Claire.
Et vous avez décidé aujourd'hui de nous parler encore de l'éjaculation précoce, mais cette fois-ci avec un angle un peu différent. Que peut faire une femme pour son partenaire? On a fait il y a quelques semaines une émission spéciale sur l'éjaculation, ses difficultés. Vous pouvez d'ailleurs encore l'écouter sur le site de l'émission Priorité Santé. Nous continuons à recevoir beaucoup de questions sur le sujet, d'où certains conseils que nous allons vous donner aujourd'hui. Catherine, vous allez nous parler de ce qu'une femme peut faire pour aider son partenaire à ralentir la survenue de l'éjaculation. Alors, par quoi peut-être commencer?
Alors, il faut savoir que la plupart des hommes qui souffrent d'éjaculation précoce sont trop actifs. Ils veulent absolument agir pour bien faire. Donc, la première chose de la part de leur partenaire, ce serait de leur dire, écoute, fais l'expérience de rester passif. Laisse ton corps tranquille sans rien faire et concentre-toi simplement sur les sensations intérieures. N'essaye pas d'avoir une érection, de ralentir ton excitation, profite de tes sensations. Et donc, pour apprendre à son partenaire à expérimenter ça, il suffit de lui demander de s'allonger tout nu sur son lit, sans rien faire, évidemment il a quand même le droit de respirer heureusement, et de lui prodiguer des caresses et des baisers sur tout son corps sans qu'il fasse rien, seulement qu'il apprécie ce
et
moment.
La femme doit commencer par où et faire cela, j'allais dire, pendant combien de temps?
Alors il faut commencer surtout par des caresses ou des baisers sur les zones non sexuelles, partout sauf sur la zone sexuelle, donc sur le visage parce que c'est agréable, les caresses sur le visage, le cou, les épaules, les bras, le torse, les mains, les pieds aussi et les jambes, et surtout éviter les zones sexuelle. Alors le but, c'est pas de frustrer son homme, mais de lui apprendre la sensualité, c'est-à-dire le plaisir de tout le corps. Et pourquoi ça? Pour l'éjaculation précoce ou contre l'éjaculation précoce? Parce que cet exercice permet d'apprendre à son corps à laisser le plaisir diffuser dans tout son corps, alors que les hommes qui ont une éjaculation précoce ont tendance à avoir le plaisir concentré, hyper concentré sur la zone sexuelle. Et quand le plaisir s'étend à tout le corps, eh bien, un homme a tendance à avoir une éjaculation qui vient bien plus tard. Et alors, sur la question de la durée, je vous conseille de faire ça une 20aine de minutes. Eh ben, croyez-moi, ça va lui paraître très long parce qu'il est habitué à aller plus vite.
Et quand on a passé les 20 minutes, on fait quoi?
Alors, après 20 minutes de caresse sur tout le corps, l'homme doit continuer à rester passif, donc à ne pas bouger, enfin, toujours respirer, évidemment. Et ce qui l'aide beaucoup, la femme va pouvoir commencer à caresser les zones sexuelles. Et toujours, il doit pas bouger, lui. Par contre, ce qui serait utile, c'est de lui dire des mots d'amour de la part de sa partenaire. Ou lui peut en dire aussi. Pourquoi? Parce que les mots d'amour, ça transporte de la tendresse et de l'affection. Et ça a tendance à être un peu une antidote de l'excitation sexuelle qui, elle, est une émotion beaucoup plus forte. Et donc, le fait d'être dans un sentiment amoureux et tendre, c'est un peu un ralentisseur d'éjaculation. Donc, dans le même état d'esprit, vous pouvez aussi mettre de la musique et alors choisir une musique plutôt romantique, une musique d'amour, pas une musique sexuellement excitante.
Donc, docteur Solano, si je vous comprends bien, il faut éviter de laisser monter une excitation trop forte chez un homme si l'on souhaite ralentir l'éjaculation et en finir avec l'éjaculation précoce.
Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, un homme ne peut pas contrôler son éjaculation. C'est impossible, l'éjaculation, c'est un réflexe qui vient tout seul et ça survient automatiquement à un certain niveau d'excitation. Donc, pour ralentir l'éjaculation, en fait, il faut apprendre à ralentir la montée de l'excitation.
Alors, après toutes ces caresses, en musique et dans une ambiance romantique, existe-t-il une manière d'aller plus loin tout en continuant à éviter que l'éjaculation ne survienne trop rapidement?
Voilà, alors une fois qu'on en est aux caresses sexuelles de la part de la partenaire, il faut que ce soit la partenaire qui pratique la pénétration. Lui, il ne doit rien faire. Donc, il reste allongé. Elle doit s'asseoir ou s'allonger sur lui et c'est elle qui agit. Et là, il faut qu'elle aille le plus doucement possible. Alors, quand je dis doucement, ça veut dire que la pénétration, l'idéal, dans ce cas-là, ça serait de la faire millimètre par millimètre. Donc, très doucement. Et une fois que les corps sont emboîtés, il faut pas bouger. Il faut faire une pause d'au moins une minute. Et pendant ce temps-là, toujours l'homme doit profiter de ses sensations. Bon, il a quand même droit de respirer, comme j'ai dit, et de parler pour lui dire qu'il aime, par exemple, mais il ne bouge pas son bassin.
Mais justement, docteur Catherine Solano, est-ce que finalement, au bout du compte, c'est quand même pas trop difficile pour un homme d'arriver à ne rien faire?
Ben si, justement, c'est très très difficile, surtout pour un homme qui a tendance à l'éjaculation précoce, qui est très dans l'action. Donc, il faut bien voir que cet exercice, ça va pas marcher du premier coup. Vous allez le faire, il va dire, c'est pas possible, là, il faut que je
ça
bouge,
pas, hein.
J'en peux plus. Et donc, il faut le refaire plusieurs fois, mettons une ou deux fois par semaine et pendant plusieurs semaines pour que petit à petit, il apprenne à profiter de ses sensations.
Toujours le même conseil, docteur Solano, la sexualité, ça s'apprend. Bon, et la suite, on fait comment?
Alors ensuite, une fois que vous avez fait une pause, enfin, vous êtes en état de pénétration, emboîté si on veut, et donc, il faut que ce soit la femme qui fasse les mouvements de va-et-vient. L'homme ne doit toujours pas bouger son bassin, c'est la femme qui va aller et venir et l'homme reste immobile et il continue à observer ses sensations. Et alors, à ce moment-là, quand il sent que l'éjaculation arrive, s'il veut que ça dure plus longtemps, il dit stop, et sa partenaire va s'arrêter de bouger. Et quand il sent que son excitation a un peu baissé, il peut dire go. Et c'est ce qu'on appelle le stop and go. C'est une méthode très réputée, assez ancienne, mais qui marche toujours très bien pour apprendre petit à petit à supporter des sensations d'excitation.
Très intéressant ce que vous avez expliqué, docteur Catherine Solano, parce que ça montre bien que les femmes ont un rôle à jouer finalement dans ces questions d'éjaculation précoce et qu'on peut que les encourager justement à aider leurs partenaires. Comme tous les jeudis, docteur Solano, vous répondez aussi à une question d'auditeur, d'auditrice en l'occurrence. On a Awa qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Awa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé pour poser votre question. On vous écoute Awa.
Ma question, c'est que moi j'ai l'impression que je ne donne pas de plaisir à mon partenaire, en tout cas. Et par contre lui, il me donne beaucoup de plaisir et je ne le vois pas aussi jouer. Donc je voudrais savoir les parties possibles de l'an. Et comment ça
te donner
plus de plaisir?
Ouais, c'est une très bonne question. Awa, docteur Catherine Solano, est-ce qu'une femme finalement voit toujours que son partenaire a un orgasme?
Ben non, pas du tout. C'est pas forcément évident pour une femme de voir si son partenaire a un orgasme. Alors il y a des hommes qui vont pousser des cris ou s'extérioriser pas mal. Ben, c'est un peu comme les femmes hein, d'ailleurs. Et là, ben on se doute qu'il a peut-être eu un orgasme, mais c'est pas toujours évident. En particulier, il y a beaucoup de femmes qui ressentent pas du tout l'éjaculation au moment où elle se produit, qui savent pas si leur partenaire a éjaculé ou pas, s'il a eu un orgasme ou pas. Alors Awa, je vais vous dire, il faudrait oser lui demander est-ce que tu as eu du plaisir, est-ce que tu as eu un orgasme, parce que c'est vraiment la seule manière d'être sûr à 100%. Parce que un homme peut avoir... Il y a des gens qui ont énormément de plaisir et ça reste très intériorisé. Et alors l'autre se dit, oh là là, je lui donne pas beaucoup de plaisir, alors qu'il y en a qui en rajoutent, qui vont crier, etc., et qui ont pas tant de plaisir que ça. Donc ça serait dommage de vous autocritiquer. Alors, pour connaître ces zones de plaisir, parce que vous disiez, j'aimerais lui en donner plus, il faut savoir que c'est pas forcément les mêmes chez tout le monde. Donc l'idéal, ça serait de l'allonger, de lui dire de s'allonger, sans rien faire, et de le caresser en lui disant, dis-moi, est-ce que tu as plus de plaisir quand je te caresse ici ou là? Est-ce que tu as plus de plaisir si j'appuie plus fort ou si c'est plus doux ou si je fais des caresses plus rapides, etc. Parce que la sexualité, comme dit Claire, Ça, ça s'apprend.
Voilà. Mais est-ce qu'il y a quand même des parties sensibles chez un homme qui, je dirais, pourraient être sensibles chez tous les hommes?
Oui, alors on a quand même ce qu'on appelle les zones érogènes primaires. C'est les zones érogènes qui sont presque génétiquement déterminées. Alors les zones érogènes, vous allez peut-être pas être très surpris par ce que je vais vous dire, mais la zone la plus érogène chez l'homme, c'est au niveau du pénis. C'est le gland du pénis. En particulier, la couronne du gland, c'est-à-dire le tour du gland à l'endroit où de la jonction entre la peau et la zone de muqueuse. Et puis la zone du frein du gland, c'est-à-dire cette petite peau qui attache le prépuce quand il existe. Et même quand il n'y a plus de prépuce, il y a toujours un petit frein qui reste. Et c'est les zones les plus sensibles. Ça, c'est le plus sensible, niveau 10 sur 10 d'excitation. Ensuite, il y a la tige du pénis, c'est-à-dire la peau au niveau du pénis, les bourses, et aussi les mamelons, qui sont chez beaucoup d'hommes très sensibles, à condition que ça soit une caresse quand même assez appuyée, adaptée, j'irais, à l'homme. Et puis ensuite, en troisième position, ça va être les zones autour de la zone sexuelle, c'est-à-dire l'intérieur des cuisses, les fesses, tout ce qui est autour de la zone sexuelle. Et puis après, bien sûr, il y aura d'autres zones érogènes sur toute la surface du corps. Et là, elles sont très diverses selon les personnes, parce que ça dépend de l'histoire de notre corps.
Comme pour les femmes,
par exemple, si vous avez eu beaucoup de bisous dans le cou dans votre enfance, bah ça sera peut-être une zone érogène. Si vous avez eu des bisous sur les pieds, bah ça sera vos pieds qui seront érogènes.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Et comme d'habitude, on retrouve toute cette chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Et demain, je recevrai Philippe Pozzo di Borgo. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, pourtant vous connaissez son histoire. C'est celle qui a inspiré celle du film Intouchable. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.